Merci Caroline Brouet, bonjour à toutes et à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Avec Delphine Saltel. L'été dernier, Emmanuel, qui vit et travaille à La Courneuve depuis 13 ans, a passé 2 semaines dans une maison en Aubrac avec ses 2 enfants. Elle ne connaissait pas la région, d'habitude il louait plutôt un studio sur la côte languedocienne. Il y avait des vaches oranges dans un grand pré, d'énormes blocs de granit recouverts de lichen, des murs au bord des chemins. Le soir, elle enfilait un pull et elle s'allongeait dans l'herbe un long moment face à la Voie lactée dont elle avait presque oublié qu'elle existait. Elle aimait bien le son des insectes la nuit et les odeurs aussi. Elle a fait cuire des côtelettes d'agneau sur le petit barbecue, équeuté des haricots verts sur la table du jardin. Les enfants s'ennuyaient quelquefois, elle a beaucoup marché. Et puis le 27 août, il a fallu rentrer. Ils ont mis 9 heures par l'autoroute. Il y avait des bouchons à partir d'Orléans, mais ça allait. Elle était bien reposée et elle se sentait prête à redémarrer. Le lundi de la rentrée, elle est allée faire les courses au centre commercial après son travail. À un moment, elle s'est retrouvée au rayon frais. Il y avait des barquettes en cellophane, de la blanquette de veau sous vide, du fromage industriel. Et c'est là que ça s'est bloqué. Elle est restée en arrêt un long moment, devant le présentoir réfrigéré, devant toute cette nature, cette nourriture emballée sous plastique. Elle s'est sentie triste et dégoûtée. Elle a erré dans le magasin. Finalement, elle s'est ressaisie. Elle a rempli son chariot. Elle s'est dit qu'elle allait tenir bon, qu'elle n'avait qu'à penser à l'été prochain. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est le 2e volet de notre partenariat avec l'Atelier international du Grand Paris sur le climat. Vivre bien partout. À l'occasion de la COP21, sont organisées des rencontres et des débats pour réfléchir au dérèglement climatique, aux manières de transformer la métropole et d'y vivre mieux. Aujourd'hui, c'est donc une histoire de béton bucolique, urbaine et pastorale, une utopie banlieusarde racontée par Pauline Mocor.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Julie Lou Dubreuil, j'habite à Aubervilliers. Mon papa était architecte et depuis petite, je dessine des plans. J'ai encore des dessins de moi en maternelle ou des trucs comme ça et je dessinais des plans, mais comme papa, quoi. Donc, bah, quelque part, voilà, c'est ça que je voulais faire, quoi, architecte. Et puis, bon, j'ai pas pu, parce que c'est extrêmement cher de faire des études. Et moi, j'avais pas les moyens financiers de le faire. Donc, j'ai dû lâcher un rêve, tout ça, tout ça. Après, j'ai travaillé en agence d'archi, comme dessinateur, voilà, assistante d'architecte. Et puis, ben, je me suis rendu compte aussi que passer ma journée derrière l'ordinateur, c'était pas non plus mon kiff. Et finalement, j'ai rencontré Patrick Bouchain, un architecte. Il était venu à Bordeaux pour faire la piscine de Bègle avec Noël, ma mère. Et donc, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Puis il m'a dit, bah, tu sais, je te veux dans la maison de chantier. Donc, bah, moi, j'étais là, à la maison de chantier. Je bouffais avec les ouvriers le midi. Et à force de les observer, bah, en sympathisant avec eux, je me suis très vite intégrée dans les équipes. Et j'ai commencé à bouger les seaux de béton, à percer, à gratter les joints de carrelage, à tenir une planche pendant que le menuisier était en train de couper. Et comme ça, j'ai mis la main à la pâte et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça, quoi. Et que, alors qu'une femme, c'est pas censé être sur un chantier, etc., ben moi, j'ai dit, mais si, il y a tout à fait possibilité. Alors, d'autant plus que j'étais passionnée par le béton. Donc, c'est comme ça que tout. Quand je suis arrivée à la NPE, j'ai parlé chantier. Et la fille, elle me dit, la NPE peut vous payer une formation d'assistant chef de chantier. Donc hop, c'est reparti, 9 mois de formation, etc. Le monde du chantier, c'est quand même un milieu assez fermé aux femmes. Hein. Donc je suis rentrée sur un chantier assez tard du matin. Bonjour, je cherche un stage. Le mec, il m'a regardé, non mais de conducteur de travaux. Non, chef de chantier, grosse œuvre. Ah, alors là, il était un peu abasourdi. Et je crois que ça l'a fait marrer qu'une fille se présente, une petite nana, se présente et lui dise qu'elle voulait faire un stage chef de chantier. Il appelle son patron, Monsieur Capaldi. Je suis reçue dans l'après-midi chez Monsieur Capaldi à Ivry-sur-Seine. Bon, c'est ton choix, mon petit. Pourquoi pas. Bon, vas-y, un stage, de toute façon, ça coûte rien. Voilà, et au bout de 3 stages, il m'a dit « Allez, arrête, passe pas ton diplôme, vas-y, viens tout de suite, on te prend. » Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée chef de chantier à Paris, chez Capaldi. Je suis restée 6 ans chez eux. Et puis un jour, un ami d'un ami me fait savoir qu'il a besoin d'un coup de main pour construire rapidement une bergerie pour ses brebis à Saint-Germain-en-Laye. Un mois après, j'arrive avec un camion plein de matériaux que j'avais récupérés sur mes chantiers, mon marteau, mes clous, tout ça. Et puis avec les copines et deux copains, on est arrivé, on a construit la bergerie en une semaine. Et quand on est arrivé, il y a le berger qui a fait « Ah, ben puisque vous êtes là, ben moi je vais partir en vacances. » Et il nous a laissé les brebis en nous disant « Vous inquiétez pas, elles sont là dans leur parc. Vous avez besoin de rien faire, mettre de l'eau, et puis c'est tout. » Et en fait, les brebis, elles étaient 7 à l'époque. Il y avait la chef, et elle me regardait. Moi, je travaillais, je clouais mes plans, je sciais, je m'activais, je déplaçais des poutres. Et puis, tu avais la brebis qui n'arrêtait pas de suivre tous mes déplacements, hyper curieuse, de l'autre côté du parc. Puis, à force qu'elle me regarde, tu te dis, qu'est-ce qu'elle me veut, quoi. Elle veut bouffer, c'est sûr. Elle veut sortir, elle veut aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte de l'autre côté du pré. Moi, j'ai dit, non, tu ne peux pas sortir. Le chef, il a dit, tu restes dans le parc, quoi. Et là, elle me regardait et j'avais l'impression d'entendre quelque chose genre, mais non, t'inquiète, je te garantis, on ne fait pas les cons et tout. Puis alors là, la conversation s'engage. Mais enfin, la forêt de Saint-Germain, si vous vous échappez, moi, je pourrais jamais vous rattraper. Et voilà, pendant 2-3 jours, tu avais comme ça des négociations entre la brebis et moi. Et je sais pas, une sorte d'instinct ou je sais pas quoi. Voilà, et puis tu ouvres le portail. Et quand tu vois tout le troupeau qui visiblement te suit pas à pas, juste derrière toi et qui reste tranquille, tu te dis, mon instinct en fait était bon, quoi. Ils avaient vraiment envie de sortir et ils avaient vraiment envie de sortir avec moi, derrière moi. Et on a marché 2 heures comme ça dans la forêt et ils ne se sont pas échappés. Ils étaient bien sages derrière moi. Après, ils sont rentrés dans leur petit parc. Nickel, tu vois. Et là, tu te dis, mais bon sang, c'est génial de faire ça, quoi. Ce rapport instinctif comme ça qui se passe. Et ce lien, il est super important, quoi, de se sentir humain parmi les animaux. C'est vrai que cette brebis m'a fait réfléchir. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte aussi que travailler pour un métier qui non pas me donne un salaire à la fin du mois, mais qui remplit aussi en partie mon frigo et qui me permet de manger des aliments exceptionnels, au lieu de gagner de l'argent, tu gagnes de la nourriture, c'est rassurant. De chef de chantier à dans le gros œuvre à bergère en 2 ans et demi. Donc j'ai commencé à monter cette entreprise cette association d'abord avec mes amis que j'ai découvert par hasard aussi mais qui eux étaient dans l'agriculture urbaine depuis plus longtemps. Et nous, ce qu'on avait vraiment envie de faire, c'était de l'agriculture productive, de la production, quoi. Et donc, on a débarqué à Saint-Denis, à côté de la cité des Framboisins, avec 8 moutons. Donc, il a fallu les caser. Un jour, j'ai écrit une lettre un peu comme une bouteille à la mer à la mairie de Saint-Denis. Alors, l'élu responsable à l'écologie, je lui dis ben voilà, on a un problème hivernal. Parce qu'on était arrivé en novembre-décembre. Et ça n'a pas loupé, il me rappelle et il me dit c'est quoi votre problème hivernal? Ben voilà, il y a 8 moutons à loger, on ne sait pas où les mettre. Alors là, le mec, il m'a répondu tout de suite. Et hop, il est arrivé son petit vélo un dimanche soir, donner un rendez-vous dans un café avec toute l'équipe. Et c'est comme ça qu'on s'est installé à la centrale de chauffage urbain du quartier, Bel Air Framboisin, à Saint-Denis. À la réputation sulfureuse, mais néanmoins assez tranquille pour élever des troupeaux de moutons. Ça, c'est notre troupeau super domestiqué.
Et c'est que des femelles.
Donc là, celle-là, c'est celle de Simone. Ça, c'est Castafiore, c'est la chef.
On n'a pas choisi le nom pour rien. Et derrière toi, il y a Loulou. Loulou, elle adore les caresses.
Ils étaient sur la centrale, qui travaillait en 3-8, donc il y avait toujours quelqu'un dans la centrale. Et comme il n'y avait pas assez à manger d'herbe pour les animaux, bah, il fallait les sortir dans le quartier pour qu'ils broutent, qu'ils se promènent et qu'ils mangent et qu'ils aient leur dose de nourriture par jour, quoi. Et voilà, tous les jours, on sortait, on mangeait avec les brebis dehors. Et puis ça s'est très bien passé pendant pratiquement un an. Et puis voilà, petit à petit, ben, on a appris qu'il y avait eu des vols à la centrale de chauffage. Malgré la présence des gens, il y avait eu des vols de moutons. On a commencé à vraiment s'interpeller sur la sécurité des animaux en ville. Et ce qui était super embêtant, c'est qu'en plus, ils ont volé la mère qui venait d'accoucher de deux agneaux, quoi. Du coup, on a retrouvé les agneaux tout seuls, sans leur mère. Puis sûrement qu'elle a voulu défendre ses agneaux. Du coup, elle s'est laissée embarquer à la place des agneaux. Sauf qu'eux, ils n'avaient plus de lait. Donc, c'est nous qui avons dû nourrir les agneaux au biberon. Voilà. La première fois, ils en ont volé deux. Et après, la semaine suivante, ils sont revenus avec un camion. Ils voulaient prendre tout le troupeau. Ils sont arrivés avec une disqueuse pour couper la barrière de la centrale, etc. Le problème, c'est surtout que les gens ont faim et que la nourriture, ça reste une valeur sûre pour gagner de l'argent. Donc si jamais tu veux te faire de l'argent, bah, tu voles un mouton et tu le revends à la pièce ou je sais pas comment. Et puis même sinon, tu nourris ta famille. Enfin, constatant ça dès le départ de mon activité, je me dis, attention, je vais pas élever des moutons si j'ai pas derrière une garantie de leur sécurité. D'abord, je cherche un endroit sécurisé. Une entreprise avec un système de gardiennage 24/24, les compagnies de CRS, les pompiers, les militaires, les gendarmeries. Tout endroit qui m'assure une sécurité optimale pour les animaux, contre service d'entretien des espaces verts. Et on a gagné aussi un appel d'offres éco-pâturage sur un site militaire. Ah oui, 15 hectares à pâturer. Et l'adjudant nous a dit qu'il voulait voir l'horizon. Après, on faisait ce qu'on voulait, mais lui, il ne voulait pas que sa prairie devienne une forêt. Donc, nous, on a le droit de rentrer et sortir dans la base et de nous occuper des brebis. Les militaires ne s'en occupent pas, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
J'avais jamais vu de mouton avant, c'est la première fois que j'ai
découvert. Bah, grave, je pensais qu'à la base, les moutons c'était à la campagne.
J'avais jamais vu de mouton vrai, seulement à la télé. Et là, quand j'ai vu, j'étais surprise. J'étais choquée. Ça, on arrive, on voit les moutons, ils sont en train de brouter l'air. Je suis déjà partie en voyage, mais pas à la campagne en fait. Je suis allée en Guadeloupe et tout, mais il n'y a pas de mouton, moi, il y a la plage. Enfin, j'ai pas vu de mouton là où j'étais partie.
Bah, moi, j'ai habité 7 ans au Sénégal, donc je connais un petit peu ce que j'avais des moutons à la maison. On avait une grande maison et ouais, il y avait des animaux. Du coup, on avait des moutons, mais c'était pas des moutons comme ça, c'était des moutons du Sénégal. Donc je connais un petit peu. Ils avaient pas autant de poils. Et ils avaient des cornes.
Un jour, parce qu'il y avait un bélier là au départ qui s'appelait Patrick, et ben il y avait des gens à la gare RER D de Saint-Denis qui disaient « Ah mais c'est le bélier là, comment il s'appelle, Patrick ?» C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on n'avait jamais vus qui connaissaient le nom du bélier du troupeau. Et là tu te dis « Mais attends, ça y est, on a des fans quoi, c'est comme les groupes de rock'n'roll, tu vois. » Genre les gens, ça te dépasse, ils te connaissent, mais toi t'es pas au courant quoi. Et puis ce qui est super encourageant, c'est dès que tu passes avec le troupeau de moutons, t'as tout le monde qui te sourit, quoi. Les enfants, les vieux, les jeunes, les petits lascars, les mamans voilées, tout le monde te sourit, quoi. Il n'y a personne qui gueule. Il n'y a personne qui fait... On s'insère complètement dans la circulation. De toute façon, les brebis, elles restent derrière moi. Donc si je traverse, elles traversent. Si je m'arrête, elles s'arrêtent. Donc voilà, tu gères ça comme une classe d'enfants en sortie scolaire, quoi. Elle marche sur les trottoirs. Et voilà, bon, des fois, ça s'écarte un petit peu. Tu remets tout le monde sur le trottoir. Et en avant, guingant, quoi. Non, c'est des brebis qui sont complètement adaptées à la ville. Et puis même, des fois, c'est arrivé que les brebis scotchent au milieu du carrefour ou des trucs comme ça. T'as toutes les voitures qui s'arrêtent. Et les gens, ils râlent pas. Ils sont tous avec leur smartphone en train de filmer le troupeau de brebis au milieu du carrefour. Puis le temps que ça se... Tu vois, qu'on règle la situation, on repart 5 minutes. Et les gens, ça les gêne pas d'être arrêtés 5 minutes. C'est comme un temps suspendu dans la ville. Tu vois, tu passes, tout se fige. Les gens te regardent passer comme un peu un truc au ralenti, tu vois. Et tu poses le temps dans la ville de manière très simple, quoi.
Quand j'arrive le matin, je me mets là-bas au carreau, je les vois. Je suis obligée, c'est mignon comme tout en plus. Ils sont mignons.
Bonjour.
Bah, bien sûr, je leur parle même. Et ils doivent dire, elle est folle celle-là, mais bon, c'est pas grave. Franchement, moi j'aime bien la regarder. Ça m'apaise. Ça m'apaise, c'est un truc de fou. Non,
c'est vraiment super. On a l'impression d'être à la campagne. Moi, je me mets systématiquement pour les voir. Bon, je m'assieds à déjeuner avec, tourner vers les moutons.
Gilou, Eric, je te dis pas bonjour, on s'est déjà vu ce matin, hein, à la première heure en plus. Couché.
Petit à petit, ça rentre dans les mœurs. Au bout d'un an, tu rencontres encore des gens qui n'ont pas vu les moutons. T'as le mouton qui passe, mais les gens, ils sont tellement dans leur bulle qu'ils voient pas qu'il y a un mouton dans la ville, tu vois, par exemple. Ça, c'est très courant. Tu vois passer des gens, ils ne tournent pas la tête, ils ont pas vu qu'il y avait un truc complètement dingue dans la rue. On s'est rendu compte qu'on a mis 3 ans à se faire accepter par la population. Et ça s'est fait par petites touches. Et là, par exemple, cette année seulement, on est super copains avec un mec de la cité, Médo. Un ex-lascar, comme on dit. Et ce mec, d'abord, on pensait qu'il a débarqué comme ça. Mais genre, ça fait juste 3 ans qu'il nous observe. Hein. Puis un jour, il a eu envie de pousser la porte, quoi. Il s'est dit, je voudrais un petit coin à l'abri pour faire des barbecues avec mes potes. Ça a commencé comme ça. Bon. Lui, il avait l'idée que quand même il était chez lui dans son quartier. Du coup, c'était nous qui étions chez lui. Et que du coup, bah, c'est normal qu'il puisse venir s'installer pour faire son barbecue dans le truc. Puis finalement, on lui a dit que bah, c'était pas un endroit pour faire un barbecue avec des potes parce qu'il y avait du foin, tout était en bois, il y avait des risques que ça brûle. Du coup, il a été vexé. Il a cru que parce qu'il avait une gueule de lascar. on l'avait jugé et que nous on était des petits blancs becs et que du coup on avait peur de lui, etc. Et que c'était toujours la même histoire. Et puis en fait, pendant un an encore, ils sont venus squatter la parcelle sans qu'on le sache. C'est-à-dire que ils avaient repéré tous nos allers-retours. Et du coup, ils s'étaient insérés dans notre rythme pour venir la nuit et que le lendemain, tout soit remis à sa place, de sorte qu'on ne se rende pas compte dès le départ qu'il y avait des gens qui étaient venus, quoi. Puis un jour, on les a surpris. Et puis finalement, on a commencé à discuter. Puis petit à petit, on a laissé faire. On s'est dit, voyons. Puis comme on a vu qu'à chaque fois, c'était nickel chrome, tout balayé, bien rangé, les braises bien éteintes. On voyait bien qu'il y avait quelqu'un qui avait mis de l'eau dans un seau pour au cas où. Enfin, donc ça veut dire qu'ils étaient super responsables. Et finalement, on s'est dit, c'est bon, la mise à l'épreuve, elle s'est faite un peu naturellement. Et je pense qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire, les mecs, quoi ? Et eux, le jardinage, pas trop. Mais par contre, quand on partait en vacances ou qu'on s'absentait trop longtemps, ils voulaient bien nous remplacer pour l'arrosage. Comme il est là le soir, qu'il y a ses potes qui sont là aussi dans la journée, que tout le monde connaît ce mec dans le quartier, etc. Notre parcelle, on va dire qu'elle est très respectée, quoi.
On va faire un tour dans la fac, Estacia.
Que ce soit Médo, mais que ce soit aussi les papis d'origine portugaise qui sont toujours en train de venir voir qu'est-ce qu'on trafique et comment on a planté les tomates, parce qu'eux, ils n'ont pas planté les tomates pareil et que ça ne va pas marcher. Mais les jeunes, là, vous faites quoi? Ils sont toujours en train de... Ils sont derrière l'autre côté de la clôture, ils observent. Et au bout d'un moment, ils sont rentrés pour venir voir de plus près, parce que nos tomates étaient quand même plus grosses, quoi. Donc à un moment donné, il fallait qu'ils viennent voir. Ça a mis un an et demi avant qu'ils rentrent. D'abord, il a fallu qu'on leur prouve qu'est-ce qui se passe. Puis quand on a commencé à refuser aux grands-mères qu'elles viennent ramasser les tomates, alors que d'habitude, les gens qui font de l'agriculture urbaine, ils sont là. Ah ouais, on a donné des tomates aux grands-mères. Tu vois, hop, on prend des photos, tout ça, machin. Ah non, la grand-mère, on l'a remballée, quoi. On lui a dit... Non, attends, si tu veux des tomates, tu viens arroser. Tu viens bosser, quoi. Alors là, la grand-mère, elle est revenue. D'abord, elle était vexée. Après, elle est revenue. Elle a fait, le problème, c'est que j'ai mal au dos. Je suis malade. Je peux pas trop... Oui, mais qu'est-ce que tu peux faire ? Des gâteaux. Alors du coup, quand elle sait qu'elle va venir ramasser au jardin, elle fait des gâteaux. Et on échange. Tac, tac. Même les étudiants qui veulent faire des thèses sur l'agriculture urbaine et qui viennent nous observer, d'abord tu bosses, après on te parle, après t'as le droit de faire ta thèse. Du coup, on a des photos d'étudiantes en sociologie qui sont en train de couper les crottes dans la laine de mouton. Elles n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. La conclusion de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train, avec toute l'équipe, de créer une entreprise. Ça fait un an qu'on a créé une entreprise coopérative avec Copanam. Et donc, on travaille comme berger urbain. Le Grand Paris, quand même, ça nous interpelle parce que nous, on se promène avec des moutons dans le Grand Paris futur. On le préfigure. Et on rappelle à tous les décideurs, tous les concepteurs de concepts d'urbanisme, etc., que on peut adapter, faire des choses qu'on n'aurait pas cru possible avec des brebis. que ces brebis ont un regard sur la ville, une manière de s'adapter, qui serait hyper intéressant d'étudier. Parce qu'à partir du moment où tu te dis qu'un troupeau de moutons est autonome dans un morceau de ville, ça veut dire que ce morceau de ville, entre guillemets, il est sain, il est naturel. Si des animaux qui mangent que de l'herbe arrivent à être autonomes dans un bout de ville, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, quoi. Et quand tu regardes Saint-Denis, c'est tout vert. Et moi, je n'achète pas de foin à l'extérieur. Mes brebis mangent tout sur place, dans cette ville. Et quand je mange de la viande de ces brebis, je mange la viande de Saint-Denis. Tu vois, que Saint-Denis a produite. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, moi, j'aimerais faire des peaux de mouton, du cuir, du fromage que les gens ils entendent bêler dans la rue, ils ouvrent leurs fenêtres et puis ils entendent bêler. Voilà, moi j'aimerais une ville comme ça.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Julie Lou, bergère urbaine, une émission de Pauline Mocor réalisée par Delphine Lemaire. Merci à Simone et Guillaume des Bergers Urbains de Saint-Denis, Sébastien Thierry, Valérie Kaufmann et Charlotte Cower. Vous pouvez laisser des messages sur le site de franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Bon après-midi sur France Culture.